17h au studio Kalangou, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 29 septembre 2022. Tout de suite, les titres. Des personnes armées non identifiées à bord de deux véhicules pick-up ont attaqué ce matin un bus de transport de passagers à la sortie d'Agadez en direction de Tawa. Le bilan fait état de 6 kilos d'or et des biens estimés à plus de 2 millions de francs CFA emportés. Le Conseil supérieur de la communication CSI tient à partir de ce matin à Niamey sa session mensuelle de 5 jours. Les conseillers se pencheront notamment sur la loi déterminant les principes fondamentaux de la protection de la liberté de presse. Le magazine de ce journal nous amène à Guidemouni, région de Zender, pour parler du comité de travail et de veille citoyen mis en place par un projet américain pour faciliter l'accès équitable à l'eau. Le fils Adam Sirfo au micro, 6 kilos d'or et des biens estimés à plus de 2 millions de francs CFA ont été emportés suite à une attaque d'un bus de transport qui a quitté ce matin Agadez pour Tawa. Les assaillants armés au nom de 8 étaient à bord de deux véhicules pick-up. Selon le procureur, ces bandits ont connaissance de l'or qui se trouvait dans le bus. Des poursuites ont été engagées par les forces de sécurité. Selon le procureur Mokhtar Henri Martin, il est au micro de Anissé Karim.
C'est un bus de la société Sonitraf qui a été intercepté par des bandits armés à 47 km de la ville d'Agadez, sur l'axe Agadez-Tawa. Ce bus a été intercepté par des bandits armés qui étaient à bord de deux véhicules pick-up V6, un véhicule de couleur cendre et un véhicule de couleur blanche. Il s'agit de 8 personnes qui étaient armées. Ils ont profité pour récupérer certains biens qui se trouvaient avec les passagers, dont 3 orpailleurs auxquels ils ont arraché environ 6,5 kg d'or. Ils ont aussi pris des téléphones portables Android avec 800 000 francs. Cette somme a été prise avec certains passagers qui étaient dans le bus. L'or a une valeur d'environ 200 millions. Les bandits présentement sont en train d'être recherchés par toutes les équipes qui sont sur place. Des poursuites ont été engagées, puis une enquête a été ouverte.
En bref, l'armée nigérienne, dans son bulletin des opérations en date du 28 septembre, indique que la situation sécuritaire reste calme dans la zone de défense numéro 2. Au nord du pays, 11 véhicules d'armes, des munitions et des téléphones satellitaires ont été saisis par l'armée. À l'ouest, plusieurs terroristes ont été neutralisés, des armes et motos saisies. Aussi, 11 individus suspects ont été interpellés dans le secteur de Sanam, département d'Abala, précise le bulletin. Le Conseil supérieur de la communication CSC a ouvert ce matin à Niamey sa session ordinaire au titre du mois de septembre. Cette session intervient au lendemain de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Le projet d'ordre du jour comporte 5 points dont l'examen et l'adoption de la loi déterminant les principes fondamentaux de la protection de la liberté de presse. Dr Kabir Sani, président du CSC, sur des propos recueillis par Rafika Taher.
Conformément aux dispositions du Conseil supérieur de la communication, la Constitution du 25 novembre 2010 a prévu en son article 10 certains domaines dont la loi va déterminer les principes fondamentaux. Il s'agit entre autres de proposer au pouvoir exécutif et législatif des propositions, des avis et des recommandations sur les questions relevant de sa compétence. Le Conseil supérieur de la communication donc peut délibérer sur toutes les questions intéressant la communication, notamment la qualité des activités des médias, des secteurs publics et privés de la communication. C'est dans cette dynamique que le CSC a mis en place un groupe de travail qui a élaboré un avant-projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection de la liberté de la presse. Ce projet de loi aura non seulement l'avantage de répondre à une exigence constitutionnelle, mais aussi de mettre en harmonie l'essentiel des textes législatifs relevant du domaine de la presse et de l'information, comme dans beaucoup de pays membres de l'UEMOA. Outre l'examen et l'adoption du projet de loi sur les principes fondamentaux de la protection de la liberté de presse, nous allons examiner et adopter les rapports des commissions d'instruction.
La suite de ce journal, le Niger et ses partenaires ont organisé hier à Niamey une table ronde pour le financement du plan d'action de la politique nationale de la migration. Rabiu Nafiou, conseiller technique du ministre de l'Intérieur et président du groupe de travail en charge de l'organisation, explique la politique de migration au micro de Leila Nohou.
La politique nationale de la migration est un instrument de politique nationale, comme ça s'entend. Donc il s'agit d'un document qui permet au gouvernement de prendre en charge la question migratoire, la gouvernance de la migration, sur la base d'un certain nombre d'axes stratégiques et de principes hein, qui permettent au gouvernement d'avoir de la visibilité dans sa gestion de la migration. Voilà, c'est un document, un outil de gouvernance de la migration. C'est ça la politique nationale de la migration.
L'actualité en région, les habitants de Birnin-Kazoé dans le département de Gouré font face à de récurrentes coupures d'électricité. Cela a beaucoup d'impact sur la vie économique de la commune. C'est pourquoi ils appellent les autorités à trouver une solution rapide à ce problème qui handicape toutes les activités socio-économiques de la ville. On les écoute au micro de Ibrahim Mazou.
Avec ces problèmes d'électricité, la seule solution c'est de nous ravitailler continuellement en carburant. Cela va nous éviter toutes ces pertes parce que nous en avons fait tellement. Puisqu'à chaque fois que nous voulons conserver le lait au réfrigérateur et qu'il y a coupure d'électricité, le lait est avarié et on est obligé de tout verser. Nous voulons vraiment de l'aide.
Vraiment, nous sommes confrontés à des difficultés par rapport à la distribution de l'énergie électrique. Nous sommes des couturiers. Cela fait près d'une semaine que nous sommes privés d'électricité. Et cela impacte beaucoup sur notre activité. Il faut que la Nigelec assume sa partition comme il se doit. Les autorités également doivent porter un œil regardant à cela.
J'ai un ordinateur, j'ai fait les téléchargements pour des gens. Il y a eu une coupure d'électricité à peine une heure de cela. On n'est pas content car tout s'est arrêté. Presque chaque mois, c'est le même problème.
L'actualité toujours en région, chaque année à l'occasion de la célébration de la cure salée ou fête des éleveurs à Ingal, l'État et ses partenaires organisent une campagne gratuite de vaccination du cheptel. Cette année, la campagne a été lancée le 14 septembre et prendra fin le 3 octobre prochain. L'objet visé est de vacciner le maximum d'animaux et de traiter plusieurs autres malades. Zakaï Abdoulou Salam, directeur départemental de l'élevage d'Ingal par intérim, joint au téléphone par Soumana Amadou.
Notre objectif est de pouvoir vacciner 60 000 bovins contre la PPCD, 200 000 petits ruminants contre la peste des petits ruminants et 21 000 caméléens contre la pastorolose caméléine. Donc en termes de couverture vaccinale, les bovins par exemple, on est à 80%. Les petits ruminants, on est à 90% et les caméléens, on est à 71%. À part même ces vaccinations, il y a environ 200 à 3 000 animaux, toutes espèces et catégories confondues, déparasitées et soutenues à travers les apports en vitamines. L'opération dans son ensemble est gratuit. Vraiment, il y a une forte adhésion de ces élèves-là. Sur le plan technique, on n'a pas eu de difficultés.
Hier, 28 septembre, c'était la journée mondiale de lutte contre la rage. Cette année, le thème retenu est la rage, une seule santé, zéro mort. Les dangers liés à cette maladie constituent une préoccupation à l'échelle mondiale, selon les spécialistes. Dr Abdou Sako explique au micro de Maria Manouhou.
C'est une journée décrétée par l'Organisation internationale de la santé animale pour lutter contre la rage, une maladie transmise par le chien. Un chien enragé, quand il mord une personne, toutefois que les mesures urgentes ne sont pas prises, la personne peut ne pas rester en vie. C'est pourquoi il est conseillé que lorsqu'une personne est mordue par un chien enragé, dans les 8 à 12 jours, elle doit être traitée. Sinon, le risque est inévitable. L'Organisation internationale de la santé animale s'est donné comme objectif d'ici 2030 pour que cette maladie soit boutée partout. Si chacun de nous observe les mesures édictées, faire vacciner son chien chaque année, cela peut nous éviter cette catastrophe. Aussi, il est demandé à la population de faire évacuer immédiatement toute personne mordue par un chien vers une formation sanitaire. Ainsi, même si l'animal est porteur du virus, plaise à Dieu, la personne sera sauvée. C'est la raison pour laquelle cette journée a été décrétée il y a de cela 15 ans, dans l'objectif de bouter cette maladie.
La 18e édition du Festival d'intégration artistique et culturelle de Dosso dans le cadre de la sensibilisation sur la COVID-19 et le dépistage sur le diabète et l'hypertension artérielle a débuté lundi. Cette activité est organisée par l'Organisation mondiale de la santé et regroupe les jeunes de toutes les régions du Niger. Karim Namaylaya Abdul Fattah, encadreur des jeunes de Tillabéri, est au micro de Nana Hadiza Hassan.
On est là pour le festival Soukabe. Oui, 18e édition. On a débuté l'activité, c'est pour 4 jours. On a fait un peu le tour et même maintenant, on va continuer sur Difa et Charlotte pour faire 2 jours. Donc, c'est un truc intéressant parce que ça cultive vraiment. Et ça fait en sorte que les jeunes peuvent passer de messages à travers les danses, à travers la poésie, le théâtre aussi. La région de Dosso, tout a été programmé et assuré parce que les autorités ont participé. C'était vraiment cool.
Cette année, à l'occasion de la fête de l'arbre célébrée le 3 août, de milliers d'arbres ont été plantés dans le département de Dogondouchi. Pour entretenir ces plantes, un comité de gestion qui réunit tous les acteurs a été mis en place. Lieutenant-colonel Youssouf Moussa, directeur départemental de l'environnement de Dogondouchi, est au micro de Abdelaziz Deyouma.
La production de plants au niveau du département, c'est principalement les pépinéristes privés. Avec l'appui de nos services techniques de proximité, ils ont eu à produire 70 600 plants, et toutes espèces confondues. Sur les 70 600 plants, on a eu à planter 148,78 hectares. À peu près les 50 et quelques mille plants ont été plantés. Donc, naturellement, il y a des mécanismes de protection des sites. Une fois planté, il y a d'abord le gardiennage. Et autour du gardien, il y a un comité de gestion qui est composé d'hommes et de femmes, au minimum 5, qui accompagnent le gardien pour assurer la protection des jeunes plants, au moins pendant 3 ans. Et ça, ça s'est fait avec tous les acteurs, les éleveurs, les sédentaires, et tous se retrouvent dans le comité, sont sensibilisés, et chacun sait que c'est pour le bénéfice de la communauté.
À présent, le magazine de ce journal de la région de Zender à Guidimouni, département de Damagaram-Takaya, un comité de travail et de veille citoyen mis en place par un projet de l'USAID, mène une lutte pour l'accès équitable à l'eau. Depuis sa création, les choses ont avancé selon Ibrahim Yahya, le président du dit comité. Il est interrogé par Zara Boukar.
Qu'en est-il de l'accès à l'eau potable de la population de Guidimouni?
Donc l'accès à l'eau potable de la commune de Guidimouni, c'est une réalité. On n'a pas des problèmes par rapport à l'accès de l'eau. Mais ce qui nous tient à cœur, donc c'est le prix unitaire du mètre cube.
À combien est-ce que le consommateur de Guidimouni paye le mètre cube de l'eau?
Actuellement, nous consommons le mètre cube à 420 francs. Donc au début, c'était à 500 francs. Maintenant, avec la lutte de la société civile, donc on a eu la chance de ramener ça à 420 francs. Maintenant encore, nous voyons par rapport à la situation de la population que ces 420 francs là encore, c'est trop. Donc nous avons tenu une première réunion donc la semaine passée avec le comité donc chargé donc de travailler sur la gestion de l'eau.
Mais qui est chargé de gérer l'eau?
Ici, l'eau là est dirigée par un délégataire. Bon, par rapport à ça, il y a eu un problème donc les maires ont résilié les contrats. Maintenant, c'est le comité qui gère ça. Et on n'a aucun problème par rapport à l'accès de l'eau, sauf ces hausses de prix-là.
Alors, que comptez-vous faire pour que le coût de l'eau soit accessible aux citoyens?
Et nous sommes en train de mener des sensibilisations. Nous sommes en train de faire des rencontres avec le comité pour avoir maintenant une baisse pour amener ça à 300 francs pour le moment. Nous avons proposé 300 francs. Donc, nous demandons une baisse de 120 francs. Nous avons fait une réunion avec le comité. Nous avons donc prévu une réunion avec le maire. Malheureusement, il est en mission. Donc, c'est ça qui nous a un peu retardé. Jagolonzi nous a bien beaucoup aidé. Parce qu'au début, on ignorait vraiment beaucoup de choses. Nous méconnaissons beaucoup de choses. Mais grâce à Jagolonzi, donc vraiment, nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de formations. Donc, et nous mettons cette formation-là en œuvre pour vraiment aider nos populations. Aussi, la mairie. Pour bien donc faire ce travail quoi.
Ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite à la suite de cette édition d'information avec les journaux en langue nationale. Et à partir de 18h15, je vous retrouve pour le forum de Studio Kalungu qui a pour thème mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Niger, ITE, état des lieux et perspectives. Studio
Kalungu. À Difa, Alternative FM 99.4 MHz, à Zender,
Geskia FM 89.5 MHz, à Maradi,
Sarawnia FM 102.1 MHz, à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz. Studio Kalungu.